Ordinateur. Voilà, c'est parti.
Ok, bonjour Claude.
Bonjour Alex,
Voilà,
Alexandre.
j'avais à cœur de faire un interview avec toi sur ta relation avec la Bible, sur ton ministère et la Bible. Et dans un troisième temps, on parlera aussi de votre ministère, parce que c'est assez spécifique chez vous, c'est que vous êtes vraiment un couple, et vous fonctionnez vraiment en couple, et c'est une très bonne harmonie. On parlera donc de votre ministère plus spécifiquement. Dans ce que vous avez à cœur et ce que vous apportez au corps de Christ. Donc, en tout cas, la première question, vu qu'on parle principalement autour de la Bible, c'est ton premier contact avec la Bible.
Bien moi, lorsque je suis venu au Seigneur, j'avais 17 ans. Et puis, on était une équipe d'amis là, dans le village du sud de la France où j'habitais. Et on commençait à se poser pas mal de questions sur le sens de la vie. Et parmi ces questions est arrivée la suivante: est-ce que la Bible est bien la parole de Dieu? En fait, finalement, on avait été sensibilisés un peu par les témoins de Jéhovah.
D'accord.
Et au bout d'un moment, bon, les témoins de Jéhovah, si je peux dire, ça sentait un peu le roussi. Là, il y avait un peu cette notion de secte là, qui nous gênait. Mais la Bible a continué à nous intéresser. Et par la suite, dans ce même village, on a rencontré un jeune homme. On a entendu parler de lui, qui se baladait partout avec des inscriptions sur son blouson: Jésus t'aime, Dieu va revenir, des versets bibliques, etc. Et puis, on a décidé de passer une soirée avec lui. On l'a invité à venir nous expliquer, nous donner son témoignage. Et voilà, donc cet homme, il lisait la Bible, il avait fait une rencontre réelle avec le Seigneur. Et tout cela, ça m'a donné soif de mieux apprendre à connaître ce livre formidable, à travers lui, dont j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis après, le Seigneur, il a mis en place plusieurs contexte, plusieurs choses qui ont fait en sorte que j'ai pu passer du temps à lire la Bible. Dans cette époque, étant sorti de l'école, j'étais d'ailleurs musicien professionnel et je jouais dans un groupe qui partait tous les week-ends. Mais dans la semaine, je gardais le bureau de mon père qui avait une auto-école. Et
D'accord.
donc, en gardant ce bureau toute la semaine, j'avais tout le temps pour lire, lire. Et donc, je passais beaucoup d'heures à lire la Bible. Et par la suite, je suis parti faire mon service militaire et j'ai été muté dans le service des essences, c'est-à-dire je m'occupais d'une station-service, je m'occupais, c'était un grand mot, c'est-à-dire j'étais là dans une guérite à soulever la barrière 3 ou 4 fois dans la journée pour que des voitures viennent faire le plein. Et donc là, j'ai passé une période où je peux dire que je lisais même 6 heures par jour la Bible. Et avec le recul aujourd'hui, je reconnais que Dieu m'avait placé dans ces contextes pour vraiment que la parole de Dieu ce soit pas quelque chose de superficiel dans ma vie, mais vraiment que je puisse la bosser, quoi.
Et dans tes premières lectures, quand tu as vraiment commencé à un peu plonger dans la Bible, est-ce que, enfin, dans les premières heures, les premiers jours où tu as lu la Bible, il y a un passage ou un texte particulier qui t'a plus percuté qu'un autre?
Oh ben, j'avais une soif, tu sais, la soif du nouveau converti, là, waouh, on dévore n'importe quel livre de la Bible, on a envie de le lire de toute façon. Bon, évidemment, il y avait les évangiles de Jean qui me touchaient beaucoup, quoi. Jean 3,16, évidemment, Dieu a tant aimé le monde, bon, je ressentais vraiment cet amour que Dieu avait eu pour moi à travers ce qui était écrit dans ses paroles, là. Et l'évangile de Jean m'a beaucoup interpellé. Des années, je l'ai lu de nombreuses fois et je vais régulièrement me ressourcer dans cet évangile-là.
D'accord. Et dans ta méditation personnelle, dans ton culte personnel, tu utilises plutôt quelle traduction, quelle Bible?
Alors, bon, pendant des années, j'ai été très Bible second et j'y reviens régulièrement aujourd'hui. Mais je lis beaucoup en anglais. La
D'accord.
plupart des livres que je lis et même de Bible que je lis, c'est en anglais. Et il y a quelques années, j'ai découvert une Bible vraiment formidable, c'est The Passion Bible. Je ne
D'accord.
sais pas si
Tu peux
tu
la
connais.
montrer un peu de plus près, peut-être s'il y a des gens qui veulent voir la couverture.
Oui, donc
D'accord.
Et le traducteur, il a utilisé pour le Nouveau Testament les textes grecs, mais des textes araméens aussi. Et il l'appelle The Passion Bible, justement, parce qu'il essaie de rendre la passion de Dieu lui-même qui parle à son peuple. Donc,
D'accord.
il y a des perles et beaucoup de serviteurs de Dieu, spécialement aux États-Unis, utilisent cette traduction. En français, j'aime bien de toute façon moi, la parole vivante, transcription dynamique.
D'accord, d'accord.
Il y a des gens qui trouvent que parole vivante, ça aurait tendance à être un peu trop le langage de chaque jour, mais moi je trouve qu'il y a des perles dans cette forme de traduction, justement, et qu'il y a beaucoup de passages, justement, qui sont loin de s'éloigner du grec, au contraire, qui nous ramènent à la pensée qui est exprimée là, dans le grec. Pendant que tu me poses ces questions, j'ai découvert aussi, je crois, il y a 2 ans, je crois, The Mirror Bible. Tu connais?
D'accord, j'ai entendu parler de ça, oui.
Et donc, traduction, ils appellent ça paraphrase.
Paraphrase, oui.
Oui, paraphraser. Et là aussi, le traducteur, lui, va encore plus loin. Alors, il n'a pas traduit toute la Bible, mais une bonne partie du Nouveau Testament. Et il va plus loin dans le sens qu'il utilise vraiment à la rigueur plusieurs phrases pour faire comprendre ce qu'un verset veut dire. Et lui, il insiste beaucoup sur l'identité de chacun de nous que Dieu veut nous révéler dans sa parole. Alors voilà, je crois que ce qui est intéressant, eh bien, c'est de pouvoir méditer la parole de Dieu à travers plusieurs traductions parce qu'il y a des richesses qu'on va trouver dans une, pas dans l'autre, et vice-versa, quoi.
Tout à fait. Hein. OK. Quand on regarde un peu, parce que bon, vous avez surtout commencé à avec le chant, vous composez toujours autant et quand on regarde de près votre répertoire, on se rend compte que bah, c'est des psaumes. Enfin, le psaume, on sait que c'est des prières qui sont chantées, mais on voit qu'il y a des chansons, il n'y a pas de forcément votre plume qui vient, mais ce sont vraiment des passages de la Bible qui sont chantés. Un avenir, une espérance, psaume 139, l'Éternel est mon berger, que l'Éternel tes délices. Pourquoi?
Ben déjà, cet amour de la parole qui a toujours été là, hein, et une bonne partie de nos chants, même je dirais un tiers de nos chants, sont vraiment des passages entiers de la parole de Dieu, mis les uns à la suite des autres, et particulièrement, comme tu le citais, les psaumes, hein, dont on a d'ailleurs ressorti un CD dernièrement, qui comprend un mélange d'anciens et de nouveaux chants. Et on a reçu vraiment de nombreuses fois le témoignage de personnes qui sont venues au Seigneur à travers nos chants, ou qui, dans les premiers temps de leur conversion, sont tombés sur nos chants et qui ont littéralement commencé à apprendre la parole de Dieu avec nos chants. Et on est
D'accord, ouais.
connu, donc, à une époque, c'est vrai, comme étant un couple qui chantait la parole de Dieu. Et on en est fiers, hein?
Ah oui. C'est une très bonne. Je crois que les Juifs, c'est comme ça aussi, c'est qu'on retient beaucoup plus quand c'est chanté. La
Absolument.
mémoire enregistre beaucoup plus. Et moi, c'est vrai, il y a des chants il y a des passages de la Bible que j'ai retenu par cœur grâce à certains. Le psaume 139, par exemple, on le chante et on le mémorise, donc c'est très bien.
Absolument. Mais moi, des fois, il y a un verset, je ne pourrais pas te le réciter précisément, mais s'il est dans un de mes chants, il faut que je me mette à le chanter, c'est-à-dire d'avoir l'air avec pour qu'il me revienne à la mémoire.
Ouais. Et c'est quoi alors tes 5 ou tes 6 versets préférés que tu affectionnes particulièrement?
Alors, avec Julia, on a un verset qui est un peu un cheval de bataille, là,
Ouais.
qui pour nous définit ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants, spécialement dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, c'est Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, et selon les traductions, concevons. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que Dieu est en train de nous dire que ce qu'il veut faire dans nos vies, c'est que lorsqu'on prie pour quelque chose, ce qu'on reçoit est encore plus grand que ce pour quoi on a prié. Et lorsqu'on imagine quelque chose, ce qu'on peut recevoir de sa part est encore plus grand et plus bénissant que ce que notre imagination était capable de concevoir. Et je trouve ce
Wow.
verset vraiment fantastique, quoi. Ça amène à un concept quand on l'assimile, cette vérité. à vraiment réaliser que la vie chrétienne, au départ, c'est supposé être tout sauf médiocre, quoi.
Oui. D'accord. Ça, c'en est un particulièrement à toi, Julien. Ouais. Ce verset-là.
Évidemment, il y a Éphésiens 2:10 aussi. Je crois qu'on y reviendra. Et Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a tout un concept ouais. de destinée, là. Et ça aussi, ça a été un des versets clés sur lesquels on a prêché, on continue à prêcher. Parce que nous croyons vraiment que Dieu veut rendre chacun de nous conscient du fait qu'il a une destinée et que cette destinée, elle ne débarque pas comme ça du jour au lendemain. Elle a été préparée alors que nous étions encore dans le ventre de notre mère.
Ouais. C'est merveilleux. Avec un livre là-dessus, un livre sur ce sujet précisément.
Oui, un livre qui s'appelle « Lutter pour sa destinée », justement.
D'accord.
Le verset de base, c'est Éphésiens 2:10.
D'accord, ok. Et tu as encore un autre verset que tu affectionnes, encore un ?
1 Corinthiens 13, les premiers versets, la définition de l'amour.
D'accord.
C'est avec, après toutes ces années, et quand on arrive à un certain âge, on a envie d'avoir nos priorités en place. Et l'apôtre Paul, il va jusqu'à dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Je dirais, on peut prêcher, on peut même avoir un super appel sur sa vie. Si on n'a pas l'amour, eh bien, on n'est rien du tout. Et ça, je me le répète régulièrement. Et même dans mon bureau, là, cette définition de l'amour que j'ai imprimée et que j'ai mis sur le mur.
Ouais.
Hébreux 11:1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas.
Ouais.
On peut avoir aussi tout l'amour qu'on veut, mais si on ne sait pas le libérer avec foi, si on est faible dans la foi, on va être limité dans l'expression même de cet amour qui est la nature de Dieu, quoi. Donc la foi, ça ne doit pas devenir une méthode, ça ne doit pas devenir... quelque chose qu'on utilise pour prendre les autres de haut. Ouais, moi j'ai la foi, toi t'as pas la foi. Mm-hmm. Mais c'est quand même une vérité qu'il faut apprendre à vivre dans notre vie de tous les jours, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Waouh! Alors dans le passé, certaines personnes sont tombées dans des déséquilibres sur l'enseignement sur la foi. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent parler de foi, ils ont l'impression qu'on est en train simplement de leur parler de prospérité, qu'on est en train de leur parler d'avoir une belle voiture, une belle maison, mais c'est bien au-delà de tout ça, la foi. La foi, c'est ce qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu, avec un Dieu qu'on ne voit pas. Wow.
Ah ouais.
Donc, on ne peut pas se passer de chercher à développer notre foi. Donc, Éphésiens 11:2 est une belle définition de ce qu'est la foi.
Ouais, ben oui. D'accord, ok. On va passer à un autre passage que j'avais fait avec Jean-Marc Taubois. En fait, c'est j'ai pris 2-3 versets, et c'est vrai que chacun, en fonction de sa sensibilité, en fonction de son arrière-plan, peut apporter. C'est toute la complexité de la parole de Dieu, c'est que d'après un verset, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Mais il y a certains passages qui sont, c'est vrai, complexes, difficiles à expliquer, et chacun aussi, d'après l'appel qu'il a reçu, d'après la révélation qu'il a reçue de Dieu, peut apporter une part, en tout cas, dans la révélation. Et en tout cas, il y en a un que je sais que tu as enseigné beaucoup dessus, et si tu peux un peu éclairer ceux qui vont nous lire ou nous écouter sur ce fameux passage de 1 Timothée 2:12 qui nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » Waouh ! Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Alors ça a fait couler de l'encre, et je dirais même que ça a fait couler inutilement beaucoup de salive. Hein.
Ouais.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. La manière dont on a parfois utilisé ce verset a fait en sorte qu'on s'est retrouvé, je dirais même, à être un instrument entre les mains de l'adversaire pour briser la destinée de milliers de femmes. Et pour ça, on risque de devoir avoir des comptes à rendre. Okay?
Ouais.
La femme, elle ne doit pas prendre autorité sur un homme particulier, à savoir son mari. La Bible, d'ailleurs, de Buzy, là, traduit, ne permet pas à la femme d'enseigner ni d'en imposer à son mari. Donc là, il y a une nuance qui est quand même très importante. et dont la traduction qu'on utilise peut changer beaucoup de choses. Si on traduit par exemple « ni de prendre autorité sur l'homme », simplement, on peut imaginer qu'il s'agit de toutes les femmes vis-à-vis de tous les hommes. Par contre, si on traduit « ni de prendre autorité sur son mari », d'un coup, c'est plus limité. On limite de suite l'éventail de l'interprétation du verset. Il ne s'agit pas de tous les hommes, mais d'un homme en particulier qui est le mari. Donc, on comprend dès lors que le verset ne s'adresse pas au domaine du ministère, ni au fait d'enseigner les hommes en général, mais traite du domaine du couple. Et si on attribue justement un passage qui concerne la vie sociale au domaine du ministère ou vice-versa, on va au-devant des problèmes. Et ce point est la base du malentendu qui concerne la question des ministères féminins. Et notre verset ne concerne pas la femme dans le ministère, je le répète, mais la femme face à son mari. Et Paul, il ne veut pas dire non plus qu'une femme ne peut enseigner son mari sur quoi que ce soit. Si ta femme, elle sait quelque chose que tu ne sais pas, autant qu'elle te l'enseigne, hein, on est bien d'accord ?
Ben oui, quand même.
C'est là qu'il est important quand même de faire fonctionner son intelligence. Et le Seigneur, il a prévu qu'on étudie sa parole en faisant fonctionner son intelligence, en essayant de comprendre ce qu'il veut nous dire. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup au sujet d'une déclaration d'un traducteur, je crois que c'est Alfred Kuhn, il disait que pour avoir une bonne traduction, il faut que le traducteur il comprenne le cœur de celui qui parle. Pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, il faut comprendre son cœur. Waouh, ça, je trouve ça formidable. Ah, oui. Là, il faut réfléchir pour apprendre à connaître Dieu. Et là, on va se plonger dans la parole de Dieu. Et certaines choses qui nous paraissent bizarres parce que nos traductions sont limitées et nos mots même sont limités. Eh bien, le Saint-Esprit va nous faire comprendre ce que Dieu voulait vraiment nous dire. D'ailleurs, il paraît que le terme grec traduit par enseigner, il couvre un ensemble de choses. Il peut signifier également ordonner, commander, décider. Et le même Alfred Kuhn, il confirme tout ça en disant, il le traduit lui, en disant qu'il faudrait plus précisément le rendre, excusez-moi, je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Devrait se traduire en prenant une autorité dominatrice sur l'homme. Donc, tu vois, si on ne met pas l'accent sur le fait que c'est l'idée de dominer, de contrôler, on va le mettre sur le fait d'enseigner. Donc, le problème, ce n'est pas d'enseigner. Ce n'est même pas d'enseigner l'homme. Le problème, c'est d'essayer d'usurper l'autorité de son mari alors que Dieu a placé dans le cadre familial, une autorité qui est l'homme. Je me permettrai pour terminer de préciser que ça ne doit pas être une autorité oppressante, mais Dieu donne une autorité à une personne pour qu'il soit à même à bénir les personnes sur qui il a autorité, et non pas pour abuser de cette autorité. Et d'ailleurs, le mot chef, l'homme est le chef de la femme, qu'on retrouve ailleurs dans l'Écriture, en grec, il a vraiment une notion très forte de source de bénédiction. Dieu donne une autorité à une personne pour qu'il soit une source de bénédiction, non pas pour qu'il profite de son autorité pour rendre la vie difficile à tous les autres. Hein. Ça, je crois que c'est important à réaliser.
Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est toute la complexité du traducteur et c'est ce que, quand on regarde un peu ce verset-là, c'est que, on le veuille ou pas, le traducteur, il influence le texte. Et quelqu'un qui va être un traducteur misogyne, qui dans sa conception est contre que les femmes enseignent, il va forcément aller dans une traduction. Je ne permets pas, je ne veux pas que la femme enseigne. Et c'est, oui, c'est pour ça que si on connaît le cœur, si on arrivait à connaître le cœur de Paul, ce que Paul veut dire, et je crois qu'il y a assez de lettres pour nous dépeindre un homme qui aimait tout le monde et il n'était pas du tout à vouloir rabaisser la femme ou la laisser enfermer. Ou même, on pourrait dire, avec le foulard, parce que ça aussi, ça a été une grande question sur cette question de voile. Est-ce que la femme doit avoir un voile ? Comment tu comprends ça ?
Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut comprendre si on ne les replace pas dans leur contexte. Et on va spiritualiser des choses qui n'ont pas un sens spirituel au départ, qui sont simplement liées à des coutumes. Ce qu'on a fait souvent avec les années... où dans certains milieux, les femmes, on leur fait mettre le foulard sur la tête, mais elles ne comprennent pas pourquoi. Et si on place les choses dans leur contexte, à l'époque de l'apôtre Paul, dans la société de l'époque, une femme qui se promenait sans être voilée passait automatiquement pour une femme légère, voire pour une prostituée. Donc, il est tout à fait normal dans ce contexte que Paul dise aux chrétiennes qu'il fallait qu'elles se voilent comme la majorité des femmes de l'époque et non pas qu'elles essayent de se distinguer et profiter de leur liberté en passant pour ce qu'elles ne sont pas et ainsi discréditer à la fois leur mari et le message de l'évangile. Mais aujourd'hui, si on envoie une missionnaire, par exemple, en Iran, on lui dira exactement la même chose.
Voilà.
Voilà. Mets un voile et tu vas déshonorer le message que tu apportes si tu ne mets pas un voile, parce que dans la culture là-bas, les femmes mettent un voile. Mais une fois qu'on sort de cette culture, il n'y a plus de raison de le faire. Et parfois, les années passant, on continue à faire des choses sans comprendre pourquoi on les a fait. C'est une histoire, tu sais, tu connais de la femme qui a l'habitude de couper les bouts du poulet chaque fois qu'elle le met dans le four. Tu connais cette histoire?
Non, vas-y, raconte-la nous.
Et sa fille, un jour, lui demande, mais maman, je t'ai toujours vu couper tous les bouts du poulet, là, c'est incompréhensible, n'est-ce pas? Avant de le mettre dans le four. Et pourquoi tu fais ça? Explique-moi. Et la femme dit, ben, je ne sais pas, c'est parce que ma mère le faisait. Alors, ils vont trouver la grand-mère, donc, où est la mère. Et elle-même, elle dit, ben, je ne sais pas, c'est parce que ma mère le faisait. Et donc, ils vont trouver l'arrière-grand-mère, enfin, où ils se renseignent plus précisément, je ne sais pas si c'est encore ouais. Sur pourquoi l'arrière-grand-mère faisait cela. Et il apparaît tout simplement qu'elle faisait cela parce qu'elle avait un four trop petit. Est-ce que tu comprends?
Ah, c'est
la raison, c'était qu'elle avait un four trop petit. Donc, pour que le poulet puisse rentrer dans le four, elle en coupait les extrémités. Ouais. Et des années après, des personnes qui avaient des fours qui ne nécessitaient pas de faire ça, eh bien, continuaient, je dirais bêtement, à couper ouais. le poulet tout autour, sans savoir pourquoi. Et c'est ce qu'on fait souvent avec pas mal de traditions ou de coutumes qui étaient bonnes à une période, on continue à les mettre en pratique alors que notre période ne nécessite absolument pas ça, quoi. Et ça, ça signifie avoir, on le fait souvent avec un zèle, mais l'apôtre Paul, il parle aussi d'un zèle sans intelligence. Et on pourrait donc se poser la question, justement, mais comme les traductions sont imparfaites, mais Dieu, il n'a pas prévu quand même qu'on va se faire des nœuds, qu'on va partir dans tous les sens, puisqu'il est vrai aussi que selon les Bibles, un même texte, les gens vont partir dans des sens très différents, parfois sur le contraire. Et la réponse, c'est que Dieu n'a pas prévu, lui, qu'on soit des hommes de la lettre, mais qu'on soit au contraire des hommes et des femmes de l'esprit. La lettre Dieu et l'esprit vivifie, c'est-à-dire des gens qui essayent avec le Saint-Esprit à comprendre ce que l'auteur de la Bible a voulu dire. Sinon, on devient facilement, et cette expression elle peut choquer, hein, un adorateur du livre.
Bibliolâtre.
C'est donné pour nous révéler la parole vivante qui est Christ, pas pour qu'on devienne des adorateurs du livre. Et quand on devient un adorateur du livre, la parole de Dieu se retourne contre nous et on a l'exemple classique lorsque Satan vient trouver Jésus dans le désert pour le tenter, il ne vient pas le trouver, j'ai l'habitude de dire, avec le manuel des parfaits petits satanistes, hein. Mais il vient le trouver avec la Bible, c'est-à-dire avec des versets bibliques, mais la différence, c'est qu'ils sont sortis de contexte. Et je ne sais pas si tu mesures l'enseignement qu'on peut tirer de cette chose-là, ça signifie qu'il peut y avoir plus de pouvoir, il y a, affirmons-le, plus de pouvoir occulte dans des versets bibliques sortis de contexte que dans des livres de sorcellerie. Sinon, le diable serait allé chercher ses livres de sorcellerie pour jeter des sorts à il allait livrer le combat de sa carrière, le diable. Il a préféré venir chercher notre livre à nous parce qu'il sait que sorti de contexte, c'est plus la parole de Dieu. C'est une parole tronquée que le diable reprend à son avantage. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de chrétiens, je dirais malheureux souvent, qui sont malheureux à la suite de versets bibliques qu'on leur a assénés, de conseils dits bibliques qu'on leur a assénés, mais qui ne correspondent pas à leur situation. Si ce n'est pas le bon merci pour la bonne situation et pour la bonne personne et pour le bon moment, ça peut produire le résultat complètement inverse à celui que la parole de vie est supposée produire.
Oui, Jésus dit quand même, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Donc si quelqu'un dans un verset se sent plutôt lié ou asservi, c'est pas bon, la parole elle a pour but. D'ailleurs, je voulais te poser cette question, la semaine, ça ne s'est pas vieux, ça date de la semaine dernière. C'est quelqu'un qui m'a appelé, parce qu'il est dans une certaine catégorie d'assemblée évangélique, et il m'appelle, il me disait, ma femme aimerait mettre un pantalon. Elle est très frustrée parce que dans nos églises, on ne peut pas porter, les femmes ne doivent porter que des jupes. Elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Et je te pose la question. Alors, une femme peut-elle encore porter des pantalons?
Alors, on est encore à l'histoire du poulet, hein, Alexandre.
Eh oui.
Parce que, et en plus, si on prend le texte auquel on fait référence pour justifier ce genre d'enseignement, il se trouve dans l'Ancien Testament. Et un homme ne portera pas un habit de femme, une femme un habit d'homme, mais le texte hébreu fait allusion au fait de porter un habit qui a été spécialement fabriqué pour.
Ouais.
Tu comprends ce qui sous-entend que l'idée qui est dans ce texte, c'est que Dieu réprouve le fait qu'un homme intentionnellement recherche à ressembler à une femme et une femme à un homme. Donc, une femme ne ressemble pas obligatoirement à un homme aujourd'hui parce qu'elle met un pantalon. Et j'avais bien aimé un commentaire de Kenneth Hagin sur le sujet qui disait aussi qu'il s'était rendu compte qu'à l'époque de Jésus, il existait une forme de pantalon que seules les femmes portaient. Donc, c'est tu vois, donc, on se retrouve en porte-à-faux. Est-ce que le pantalon est un habit d'homme et de femme? Non, non, c'est l'idée de porter des habits spécialement faits pour le sexe opposé avec l'intention de ressembler à ce sexe opposé.
Oui, oui, puis je ne suis pas sûr. Enfin, c'est les pantalons tels qu'on les porte aujourd'hui, ou des pantalons aujourd'hui, c'est même, je ne suis même pas sûr qu'à l'époque, ils avaient plutôt des tuniques. Ou... Donc, c'est toujours, toujours comme quand on sort du contexte, on enferme les gens. C'est...
Oui, les mêmes choses avec les cheveux longs, etc.
Eh oui.
Sur les choses du contexte, on revient à l'histoire du poulet.
Mais oui. Ok, bon, on va avancer un peu plus.
Allez.
On va parler de toi et de ton parcours, parce que la musique, c'est vrai, elle occupe une grande place, en tout cas dans votre ministère. Tout le monde se rappelle des cassettes. Et donc, d'où t'es venu la musique et quel a été ton parcours dans la musique depuis les origines jusqu'à maintenant?
Eh bien, mon père, il était musicien déjà. Il jouait
d'accord.
La pension. Et il jouait aussi dans des balles de village, là, quand il était jeune. Mon grand-père aussi avait été musicien, il jouait de la batterie et mon oreille donc, était très sensible à ce monde hypersensible, je dirais, qui est celui de la musique. Et bon, l'accordéon dont jouait mon papa n'a pas produit sur moi l'effet d'une révélation. Mm-hmm. Mais j'ai découvert un jour cet instrument fantastique qui est la guitare. Et j'ai appris à jouer à l'âge de 14 ou 15 ans de cet instrument. J'ai pris des cours. Je me rappelle aller, j'habitais dans le village de la France qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Marseille. Je prenais chaque semaine le bus pour aller prendre des cours de guitare à Marseille. Jusqu'au jour où mon professeur il m'a dit que dans le domaine rock blues, ben voilà, il n'avait plus rien à m'apprendre et qu'il fallait que je fasse ma vie, quoi. Et donc, très rapidement, après, je me suis retrouvé à être embauché dans un groupe, là aussi, qui voyageait à travers toute la France pendant les week-ends et qui faisait les fêtes de village, tu sais.
Ouais, ouais.
Tu joues autant du Johnny Hallyday que du Claude François à l'époque, etc., que du rock, du tango, etc., et, ou alors dans les boîtes de nuit aussi. Et donc, à 17 ans, j'étais musicien professionnel et je gagnais ma vie en partant tous les week-ends avec ce groupe-là. Et ensuite, j'ai rencontré le Seigneur et voilà. Donc, comme la vie avec ce groupe n'est pas très saine, j'ai décidé de le quitter. Et ce que je peux dire, par contre, c'est que je n'avais jamais composé un seul chant. La semaine même où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai composé mon premier chant.
D'accord. Qui était
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur,
prière.
Sois béni, ô Seigneur Jésus-Christ.
D'accord. Okay.
Voilà, et puis on a, j'ai pas arrêté d'écrire des chants. Puis plus tard, j'ai rencontré mon épouse. Elle aussi, elle a donné son cœur au Seigneur. Elle aussi écrivait. Et depuis, ben, y a des chants que j'ai écrits seuls. Il y a des chants qu'elle a écrits seuls. Il y a des chants qu'on a écrits à deux. Il y a des chants où j'ai fait les paroles, elle a fait la musique. Vice-versa. Et voilà.
Une belle complémentarité en couple.
Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai pu concrétiser un projet que j'avais depuis de nombreuses années, donc avec le confinement, ça nous permet d'avoir du temps,
oui.
Et de mettre en ligne sur notre site le contenu de toutes nos cassettes.
Ah,
ouais.
D'accord, donc c'est en ligne, donc, ça va être bientôt.
Sur Facebook, non ? Et donc, il y a plus d'une une centaine de chants à peu près qui sont en téléchargement sur notre site, en plus de certains CD qu'on a mis en téléchargement. Et on a mis tous ces chants en téléchargement gratuit, spécialement dans cette période un peu délicate.
D'accord. On mettra un lien, de toute façon, pour envoyer les gens vers le site qui veulent écouter. Il y a derrière toi, sur le mur, c'est une Les Paul, une Gibson, ouais, Les Paul. C'est ça?
Les Paul, ouais. Une...
D'accord.
Les Paul Gibson. Qui est la conséquence d'un miracle d'ailleurs.
D'accord. Tu veux nous partager ou pas, non ?
Oui, j'avais une guitare électrique et puis un jour je me lève et le Seigneur me dit donne-la à telle personne. Waouh !
C'est
une bonne guitare. Hein. Et voilà ce que j'ai fait. Et c'est une manière d'expliquer que la loi de la semence et de la récolte, parfois très critiquée, fonctionne lorsqu'elle est mise en route avec de bonnes motivations. Et la semaine d'après, ou 10 jours après, je reçois un email d'une personne que je n'ai pas vue depuis 15 ans, que je ne connaissais pas plus que ça, qui me dit « J'ai entendu parler de toi et de ton épouse dernièrement et j'ai eu à cœur de te recontacter. Ça m'a pris un moment de retrouver ton email et donc je voulais juste te dire ce que je suis devenu. Et j'ai ouvert un magasin de musique qui est devenu un des plus importants d'un pays, c'était un autre pays que la France, et j'aimerais t'offrir une guitare. Waouh ! Alors, il faut le faire, hein ?
Ah oui, il faut oser, oui.
Je connais la personne juste un peu, je ne l'ai pas vue depuis 15 ans, je viens juste de semer cette guitare électrique en obéissant à une parole du Seigneur, et alors je lui dis, ben, ma foi, j'ai semé une guitare électrique, si tu es d'accord, je vais prendre une guitare électrique. Dans ce que tu me proposes, il m'a dit ben, va sur le catalogue et choisis celle que tu veux. Et j'ai toujours eu envie d'avoir une bonne Les Paul. Hein. Et donc j'ai choisi cette Les Paul. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans la même période, comme par hasard, nous tenions un séminaire pas loin de chez lui. Et donc il est venu au séminaire, il m'a amené la guitare Les Paul. Waouh! Et en même temps, il m'a dit mais le Seigneur, il m'a parlé, peut-être deux. Donc, j'ai aussi une guitare Taylor pour ton épouse.
Eh, ben, dis donc.
Il nous a offert plus de 3000 euros de guitare.
Waouh.
La suite de cette semence.
Ouais.
Waouh. Donc, c'est un beau souvenir de ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on lui obéit. Il nous demandera toujours de payer un prix. Il nous demandera parfois de faire des choses un peu folles. Mais la Bible le dit justement, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera à un moment donné. Et là, tu vois, on a la démonstration de ce verset d'Éphésiens 3:20 qu'on citait tout à l'heure, que Dieu peut faire au-delà de ce que nous imaginons. Moi, j'attends une guitare, il en arrive deux.
Ouais,
je crois que trop souvent, et je l'ai moi-même vécu trop souvent, on reçoit moins que ce qu'on attend, et il y a moins d'onction, il y a moins de guérison, il y a moins de conversion, il y a moins de bénédiction, mais Dieu veut nous faire basculer dans l'autre sens. Il veut qu'on soit surpris par sa bénédiction qui nous touche, l'action de son esprit qui nous touche, parce qu'on reçoit plus que ce qu'on a demandé. Et n'est-ce pas le concept d'un bon papa?
Ah oui.
Prendre plaisir à faire plaisir à ses enfants, même à les surprendre pour qu'ils soient là, émerveillés. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui nous écoutent, qui en ont un peu assez de récolter moins que ce qu'ils attendent.
Ouais.
Et ben, je leur donne Éphésiens 3:20 à méditer et à proclamer régulièrement, parce que la parole de Dieu, elle est efficace lorsque on ne l'utilise pas d'une manière passive. Et quand c'est passif, on ne l'utilise pas. Hein. Mais quand on la libère de manière active, je sais que depuis le début du confinement, eh bien, tous les jours, je proclame au nom de Jésus-Christ certaines vérités sur ma vie, sur la vie de ma famille, et je commande à la vie, à la prospérité de Dieu, à la santé de Dieu de nous atteindre, spécialement dans des temps où la maladie frappe à droite et à gauche, et où justement beaucoup de personnes peuvent se dire, ben, dis donc, je ne peux plus travailler, ou je touche une compensation de l'État, mais parce que je ne peux plus vraiment toucher mon salaire pleinement. Dieu est au-dessus de tout ça.
Ouais.
Sa parole, elle est supposée marcher dans toutes les situations. Et je dirais même qu'à plus forte raison, la situation est telle complexe que nous avons besoin que la parole de Dieu prouve qu'elle est réelle et véritable. Et je termine par là. Le miracle de Dieu, ce n'est pas Dieu qui intervient quand les solutions humaines peuvent tout simplement être là. C'est quand justement, au niveau humain, on est limité. Et Dieu nous a donné sa parole et il est écrit dans sa parole justement qu'il l'envoie, il envoie sa parole et il est guéri. Il envoie sa parole pour qu'elle marche. Il ne confirme pas le grand ministère de Claude Payen ou d'Alexandre Nano, mais il veut confirmer sa parole. Et cette parole, il faut qu'elle devienne vivante dans notre vie. Il faut qu'elle devienne non pas une confession de foi comme une méthode, comme de l'autosuggestion. Ça, on est d'accord que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller, mais une proclamation qui vient du cœur. Mais surtout pas qu'on soit passif juste à lire la Bible, dire bon, ben, j'espère que ça va marcher. Quoi.
Ouais. Ok, bon, maintenant qu'on te connaît un peu plus, que les gens qui ne te connaissaient pas en savent un peu plus sur toi, on va parler de l'Église. Parce que l'Église, c'est votre champ d'action principalement. Et ouais, ça grandit comme beaucoup à faire une conversion dans des églises évangéliques traditionnelles. Et bon, on est sorti. Et en fait, la question, c'est quel a été pour toi le déclic, l'élément déclencheur qui t'a fait prendre conscience que quelque chose n'allait pas? Je pense que là, on peut peut-être toucher une partie de l'identité de qui nous sommes et qui nous sommes appelés à être en Christ.
Oui. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis retrouvé un peu dans un milieu évangélique, charismatique, mais assez sectaire. C'est-à-dire cette notion où, je dirais... comme beaucoup d'églises, et pas toutes, hein, loin de là, que c'est nous et les autres, ils n'ont rien compris. Mm-hmm. Cette notion très sectaire, si vous êtes dans l'église et vous ne pouvez plus en partir.
Ouais.
Vous êtes coincé à vie dans l'église. Et donc, ce n'est pas ma conception du verset que tu as cité tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, elle affranchit.
Ah oui.
Elle n'a servi pas. Un manque de conception du corps. Et je crois qu'il y a un jugement qui atteint à la longue les personnes qui ne considèrent pas le corps de Christ dans son ensemble, parce qu'ils sont tout le temps en train de penser qu'ils sont supérieurs aux autres et que leur dénomination est supérieure aux autres. Donc, au bout de quelques années, après être devenu moi-même très sectaire d'ailleurs et utiliser la parole de Dieu souvent pour condamner ceux qui ne pensaient pas comme moi, hein, je me suis retrouvé après dans une autre assemblée. J'ai commencé à être un des pasteurs de cette assemblée, à servir dans le ministère. Cette assemblée était, je dirais, au niveau de la liberté de l'esprit, d'un niveau supérieur. Mais là aussi, pour revenir au thème qu'on a abordé tout à l'heure, les femmes ne pouvaient pas prêcher, etc. Et un jour, avec mon épouse, après avoir servi comme pasteur ou copasteur pendant 7 ans dans ce contexte-là, on a vu Dieu faire de belles choses, et loin de moi de dire que le Saint-Esprit n'agit pas dans les assemblées étroites, mais on a décidé de repartir tous les deux à zéro façon de parler, ou de repartir tous les deux à bâtir une œuvre qui s'appelait Souffle Nouveau. On a quitté ce contexte, ce qui a été très mal vu d'ailleurs, et on a créé une œuvre qui s'appelle Souffle Nouveau, avec cette idée de vraiment que... l'Église est là pour apporter un souffle nouveau, la parole de Dieu et l'interprétation qu'on en fait est là pour communiquer un souffle nouveau. Okay? Bon, je ne dirais pas qu'on n'a pas eu à évoluer aussi par rapport où on se trouvait avec cette œuvre Souffle Nouveau avec les années aussi, parce qu'on se rend compte que l'esprit religieux s'est vite fait qu'il nous reprenne. Et, voilà. Et aujourd'hui, ben, le Seigneur nous a dirigés dans un ministère itinérant où justement on visite beaucoup d'églises. Mais c'est important d'avoir une expérience pastorale si on a un ministère itinérant. Ça nous permet de ne pas débarquer dans les églises avec cette notion de « je vais vous montrer ». On sait que ce n'est pas toujours simple, que ce n'est pas toujours facile pour les pasteurs. On est vraiment là avec cet état d'esprit de les bénir, mais aussi d'apporter une parole qui libère, qui affranchit, qui décharge les gens des fardeaux qu'ils sont sur leurs épaules pour qu'ils puissent mieux servir le Seigneur. En d'autres termes, l'Église est là, entre autres, pour aider les gens à rentrer dans leur appel, et Dieu a placé des ministères précis, nous dit l'Écriture, pour les aider à rentrer dans cet appel. Mais je dirais qu'on n'est pas là pour asservir les gens dans le ministère, on est là pour les libérer dans le ministère.
Autre chose. Hein.
Ouais, c'est pas la même chose, c'est pas le même concept. Hein.
Ouais, ouais.
Donc, c'est tout un état d'esprit. Parfois, ça nous prend du temps. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on a un héritage hein, et on ne se rend pas compte à quel point parfois il est lourd et il influence notre manière de penser, de fonctionner. Et c'est pourquoi un début des enseignements, de mes enseignements, à travers aussi les brochures que je sors, les brochures Flèche, les brochures Lance, c'est vraiment d'aider les gens à ne pas perdre les années que j'ai perdues. Et lorsque les gens viennent au Seigneur, qu'ils soient le plus rapidement possible instruits avec une parole qui les libère, qui leur donne envie de croire que tout est possible. D'aimer l'Église, qui leur donne envie d'aimer l'Église, non pas parce que c'est une prison dans laquelle ils vont se retrouver enfermés, mais parce que c'est un lieu à partir duquel ils peuvent s'épanouir. L'Église, il y a plusieurs définitions que j'ai. C'est une famille.
Mm-hmm.
Dans une famille, on n'est pas là pour se jalouser les uns les autres, on est là pour s'encourager les uns les autres, être content du succès de l'autre.
On en fait jouir, ouais.
Aussi. C'est une armée aussi. Wow, on apprend aussi à devenir un guerrier, non pas un chrétien bobo maman. Wow, le diable m'a compris ça. C'est un hôpital. On est là pendant un temps pour être guéri aussi.
Et oui.
C'est un réservoir d'onction parce qu'il y a ce principe qui est supposé être libéré dans l'Église, mais dans une Église où règne la liberté et l'unité. Un peut en chasser 1000, deux n'en chasse pas 2000 comme le voudrait une certaine logique. Mais deux en chasse 10 000. Waouh! Si ça marche avec deux, imagine avec une église de 100 personnes, de 1000 personnes, waouh, c'est formidable!
Ah oui, oui.
Et c'est là qu'on va permettre au Saint-Esprit de se manifester avec plus de force et de puissance. Et s'il ne peut pas le faire comme on le voudrait aujourd'hui, qu'on est obligé parfois de constater qu'il y a plus de malades que de guéris au milieu de nous et plus de gens à problème que ceux qui ont résolu leurs problèmes, c'est que quand même, il y a un manque de Saint-Esprit, de sa présence, et nous avons la responsabilité, et je dirais aussi d'utiliser ce temps de confinement pour cela, pour réajuster certaines choses, pour qu'en sortant de là, plusieurs églises puissent fonctionner avec plus d'autorité, en même temps avec plus de liberté. Il y a une définition, Alexandre, que j'aime beaucoup de l'Église, je ne me rappelle pas où j'avais trouvé ça, c'était que c'était une assemblée de croyants. Il paraît que ça, c'est ce qui émane un peu du sens du grec ecclésial, hein, et qu'on adapte pour les chrétiens. C'est une assemblée de croyants placés sur cette terre pour exercer un gouvernement divin. Waouh! Ça redonne toute sa noblesse à l'Église, une telle définition. Mais moi, je pense que c'est supposé être noble.
Ouais.
Il faut redécouvrir cette noblesse dans pas mal d'endroits.
Oui, puis la joie de se retrouver, la joie quand l'Église se retrouve, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans un bâtiment ou chez quelqu'un, mais parce que c'est tout le problème de l'Église aujourd'hui où certains sont tombés dans des mécanismes où ils vont le dimanche parce que voilà, on a été habitué, il y a une routine, mais ouais, quand l'Église se rassemble, il y a la vie, il doit jaillir des choses, c'est un véritable partage.
Et c'est lié à un état d'esprit. Pour que la vie se manifeste, il faut avoir cet état d'esprit à la fois de liberté, d'amour aussi. Je donnais un exemple tout à l'heure, ben, se réjouir de l'élévation de l'autre, se réjouir de la bénédiction de l'autre. Je prie pour avoir un conjoint, puis c'est l'autre qui se marie. Et ben, je suis content pour lui, alléluia. j'ai envie de monter ouais. sur l'estrade, mais on appelle un autre pour chanter. Et ben, mais je suis content pour lui. Ouais. Donc, il faut rayer toute cette notion de jalousie, de compétition, de critique qui attire les démons, finalement. L'apôtre Paul disait aux chrétiens, ne donnez pas de prise à Satan. Là où Satan a des prises, il va se servir, il va s'installer et ça va ôter de la présence du Saint-Esprit.
Oui, c'est autant de brèches et de failles pour d'éventuelles divisions. C'est là où on voit l'œuvre de l'adversaire, quand il vient pour diviser. Il ne supporte pas une église unie.
Et le psaume 133, qui dit « Tout est agréable pour des frères de demeurer ensemble », je l'ai lu de nombreuses fois, mais un jour, j'ai capté que le début de ce psaume est très important et même la condition pour que la suite puisse... arriver. Par la suite, il est dit, c'est là, dans ce rassemblement, que Dieu envoie une onction, une bénédiction particulière. Pourquoi? On l'a expliqué, parce qu'il y a des multiplications de l'onction au contact les uns des autres. Et j'ai réalisé que la condition, c'était quand même qu'on crée un contexte dans lequel il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il sera alors doux et agréable pour le Saint-Esprit de demeurer au milieu de nous.
Voilà,
on est unis parce qu'on est ensemble, comme un couple. On est unis parce qu'on est ensemble. Non, on est vraiment unis parce qu'on fait ce qu'il faut pour marcher dans l'unité, quoi. Et on peut être ensemble avec des milliers de personnes et chacun être seul et notre unité ne va produire aucun résultat, quoi.
Oui, on vise le même but.
Absolument. C'est l'unité de l'esprit, non pas l'unité qui consiste à être ensemble, qui suffit.
Ah oui. Bon, Claude, tu as plus d'une corde à ton arc, c'est que tu aimes beaucoup les flèches, et on te connaît donc comme chanteur, compositeur, écrivain, enseignant, ministère itinérant. Tu nous parlais tout à l'heure de souffle nouveau, donc effectivement, il y a aussi eu là un travail apostolique qui a été fait en France, mais aussi dans les îles, pour apprendre à te connaître un peu plus. Donc, t'es papa, t'es marié, t'es toujours avec Julia, rassure-nous.
Depuis 41 ans. Deux en mieux chaque jour.
Voilà, ils ont eu quatre enfants, des petits-enfants, combien ?
Quatre petits-enfants.
Quatre petits-enfants. Donc ça fait beaucoup tout ça, beaucoup de casquettes. Est-ce que tu es à l'aise dans toutes ces responsabilités ? Est-ce que ça incombe ?
Absolument. Il faut simplement que ne pas tout mélanger. Et lorsqu'on est papy, par exemple, eh bien, il faut être papy à fond. Quand on est avec nos enfants, alors aujourd'hui ils sont grands, c'est souvent pas à distance qu'on se téléphone ou à travers Internet là, qu'on communique, mais être à fond avec eux, être à fond dans la relation avec eux, je crois que c'est important, la qualité de relation. Ne pas partir du principe que le ministère, c'est avant tout aller aux extrémités de la terre et prêcher. Non, le ministère, c'est avant tout avoir une bonne relation et entretenir cette bonne relation avec ses enfants, avec son conjoint, et réaliser que la première église, même si ça sonne un peu bateau, c'est notre famille. Et parfois, beaucoup de serviteurs de Dieu veulent aller aux extrémités de la terre pour enseigner aux Africains, aux Indiens que Dieu les aime et le leur dire, mais ils ne sont pas capables de le dire à leurs femmes quand ils sont à la maison. Donc, il y a beaucoup de déséquilibres comme cela que le Seigneur voudrait qu'il soit avec beaucoup de déséquilibres. Le Seigneur voudrait que beaucoup d'équilibres soient rétablis. Okay? Et... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, mais on se sent à l'aise avec Julia de pouvoir voyager ensemble comme cela, en tant que couple. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Et tout ce que tu as cité, ben, on le reçoit vraiment comme étant une grâce. On n'a pas ce sentiment de dire, wow, tu as vu ce qu'on fait? C'est vraiment, wow, Seigneur, je suis étonné de ce que tu as pu faire et que tu fais encore à travers les personnes que nous sommes, les dons que tu nous as donnés. Des fois, on écrit un chant, on dit, mais comment j'ai fait pour écrire ce chant? Vraiment, c'est la grâce de Dieu, quoi.
Ouais, ouais.
Et d'autres fois, on dira, mais chérie, l'amour, au lieu de diminuer comme beaucoup de couples, en 41 ans, il n'a fait que grandir. C'est pas humain. Mm-hmm. C'est pas humain. Il y a des choses qui sont pas humaines. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. On n'est pas supposé construire les choses avec la chair, ni même avec les bonnes intentions, mais avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va rendre possible ce qui est impossible aux hommes. Hein? Et puis, c'est une question d'appel. Je crois que lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, il nous donne la grâce qui va avec. C'est pourquoi l'idée dans la vie, on revient à Éphésiens 2:10, réussir sa vie ou réussir son ministère, ce n'est pas partir dans tous les sens, c'est faire des choses pour Dieu. L'appel que place Dieu sur notre vie ne consiste pas à faire tout ce qu'on trouve à faire pour lui. Non, consiste à chercher à comprendre quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et quand on rentre dans ces œuvres, il a donc prévu une onction, c'est-à-dire une facilité à faire certaines choses que n'auront pas d'autres, parce que ce n'est pas leur appel, et nous, on n'aura pas la facilité qu'ils ont pour faire d'autres choses, même dans le couple, d'ailleurs, on a des appels différents, avec des fois différentes, et on n'a pas la facilité ou l'onction pour faire certaines choses que d'autres ne peuvent pas faire, pas parce qu'on est plus malin qu'eux, mais parce que c'est l'onction qui brise les jougs, et Dieu qui est juste ne peut pas nous appeler à faire quelque chose sans nous équiper pour le faire.
Ouais.
Nous enverrons au massacre. Et c'est pour ça que le plus mauvais calcul qu'on puisse faire dans la vie, c'est d'essayer juste d'être comme l'autre. Tiens, Claude Payan fait ça. Tiens, Alexandre Nano fait ça. Moi, je vais faire la même chose. Ça marche pour lui, ça marchera pour moi. Non, non. Ça ne marche pas comme ça, justement. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Vous ne serez jamais un meilleur Claude Payan que moi. OK ?
Ouais.
Je n'arriverai jamais à être un meilleur Alexandre Nano que toi.
Ouais, on est unique. Hein.
Parce qu'on est unique, avec un appel unique, une onction unique. Et beaucoup de gens, parfois, sont en panne d'identité. Et ça, c'est un autre message qu'on aime partager.
Ouais.
Après la destinée, l'identité. Et parce qu'on ne leur a pas toujours expliqué qui sont en Jésus-Christ. Parfois, on veut juste les avoir en train de réchauffer une chaise dans une église. Mais on n'essaye pas de les amener à leur propre épanouissement. Et quand les gens parviennent à leur propre épanouissement, ils comprennent qu'ils sont en Christ, qui Christ est en eux, et ils comprennent quel est leur appel. Ils n'ont plus à essayer d'être quelqu'un d'autre parce qu'ils vont comprendre que cet appel, quel qu'il soit, de toute façon, il est merveilleux et il est glorieux. Certains sont appelés à voyager, d'autres à rester sur place. Certains sont appelés à prêcher, d'autres pas, alors qu'ils sont plus forts dans le témoignage personnel. Ce qui est important, et c'est ma définition de réussir sa vie, c'est de comprendre quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et arriver à mettre ses deux pieds dans ces œuvres-là et se lever tous les matins, non pas que tout va être simple et facile, mais avoir cette conviction, je suis à la bonne place, en train de faire les bonnes choses, entouré des bonnes personnes. Et moi, je peux rendre ce témoignage, c'est qu'en me levant le matin, j'ai ce sentiment, waouh, la vie n'est pas toujours simple, il y a des combats, il y en aura toujours. Mais waouh, combien ce sentiment est merveilleux, quoi. Je suis à la bonne place, en train de faire les bonnes choses dans le plan de Dieu, entouré des bonnes personnes. Waouh.
Ah ouais, vaut mieux. Ouais, vous êtes assez rare en France, en tout cas, à exercer le ministère en couple. Que vous vous déplacez en couple, hein, vous prêchez en couple, vous composez en couple. On vous voit toujours en couple. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, dans le monde francophone qui fonctionne en couple. C'est important pour toi?
Oui, absolument. Et là aussi, c'est une question d'appel. Après, il y a des couples qui fonctionnent très bien en tant que couple, mais bon, c'est le mari qui est appelé, ce n'est pas la femme, ou plutôt il est appelé différemment. Nous sommes tous appelés. Et d'autres, c'est la femme qui sera plus appelée à prêcher, pas le mari. Et donc, ils doivent avoir un équilibre différent d'une autre. Nous, on a notre équilibre, on a une grande joie parce qu'on chante tous les deux, on prêche tous les deux, voilà. Mais c'est notre appel, ça correspond à l'appel que Dieu a placé sur notre vie, qu'on ressent d'ailleurs depuis le jour où on s'est rencontrés.
Ouais, ouais. Et au niveau de tes influences, ceux qui sont vraiment accompagnés dans ton cheminement, dans la foi, dans ta construction, on a tous besoin de père. Quand on n'a pas de père, c'est difficile de se construire, d'avoir, comme le dit le proverbe, pas de père, pas de repère. Donc, c'est important d'avoir des pères. Et dans ta marche, dans la foi, est-ce que tu as eu des pères que tu as pu vraiment, qui t'ont accompagné, qui t'ont aidé?
Alors, je fais partie d'une génération où beaucoup de serviteurs de Dieu aussi que j'ai connu, avec qui j'ai contact, ont ce sentiment de ne pas avoir eu de père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se lèvent vraiment des pères et des mères aussi spirituels, ouais, pour encourager les autres à se lever, non pas obligatoirement les garder là autour de nous et les contrôler. Et c'est pourquoi je suis allé chercher, je dirais, mes pères spirituels dans les livres. Celui qui lit beaucoup, il a un avantage, c'est que les pères, ah ouais, n'a pas dans le naturel, les pères spirituels, on parle, il va les trouver dans les livres. Moi, il y a des hommes qui m'ont vraiment fortement impacté. Il y en a un qui m'a énormément impacté, même si certains le critiquent de trop, malheureusement, c'est Kenneth Hagin. Ouais. Je me suis rendu compte que sans avoir voulu copier ce qu'il a fait, bien, quand j'ai décidé de sortir mes petites brochures, le format que j'ai choisi, ce n'était pas du tout calculé, correspond exactement au format de brochure que lui-même a choisi. Donc, il y a un ADN, d'accord, spirituel qui se répand, ouais, on ne se rend même pas compte nous-mêmes, quoi. Et je dirais que la personne qui m'a fait le canevas de ses brochures, je lui avais demandé de me le faire, ben il s'est trompé. Il m'a fait, ouais, j'ai reçu le canevas, je me suis rendu compte que c'était exactement le même que ceux des brochures de Kenneth Hagin, et j'ai décidé de garder ça. Et tu, d'accord, vois, choses, parfois, je crois que c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Cet homme a beaucoup apporté, justement par ses brochures, par ses livres, par ses enseignements. Il y a eu des hommes aussi comme Oral Roberts, il y a Lester Sumrall, c'est tout, ouais, le serviteur de Dieu, le revivaliste qui m'ont stimulé. J'ai beaucoup lu sur les revivalistes. Et puis après, par la suite, j'ai reçu beaucoup d'hommes qui sont beaucoup plus proches de moi au niveau de l'âge, comme Rick Joyner et plusieurs prophètes. J'ai toujours aimé les gens qui travaillent à la fois dans le prophétique et à la fois dans l'enseignement.
Oui, ça apporte un bon équilibre en tout cas les deux. Hein.
Mais j'ai un principe par contre, c'est de lire beaucoup, autant les biographies que les enseignements de plusieurs, parce que je crois vraiment à créer un équilibre. Je crois qu'aucun de nous et qu'aucun d'eux n'a toute la vérité et toute la compréhension des choses, et que parfois les personnes veulent être juste de Paul ou d'Apollos, et c'est là que les problèmes commencent, alors que Dieu veut qu'on prenne en considération l'ensemble de son corps, et d'hommes et de femmes qu'il a choisis, qu'il a utilisés, donc qui représentent souvent les saints ministères.
Ouais.
Une image plus complète. Et avec Julia, on a pas mal voyagé, on est allé dans le passé autant assister à des séminaires de Kenneth Hagin que de René Warbrand, que tu vois. On est allé à Toronto et notre but, d'ailleurs, on était pasteur à l'époque et notre but, c'était de ramener chaque fois à l'église un autre aspect du corps de Christ. Et on a vu l'église, d'ailleurs, à l'époque, elle était puissamment visitée par le Saint-Esprit à la suite de ses visites comme à Toronto. Et aujourd'hui, pour nous, c'est juste l'évolution des choses. On continue dans le... On a eu quelques accros en cours de route, on s'est pris quelques murs, n'est-ce pas? Tu t'es déjà pris quelques murs, toi, Alexandre?
Hein? Voilà. Un peu, ouais, quand même. Ce qu'on n'a pas eu, c'est pas normal.
Et ça fait partie de la formation, hein, au lieu de faire partie des personnes qui progressent. Je laisse tout tomber, c'est trop dur de servir. Ouais. On rebondit chaque fois et on voit la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, la soixantaine passée avec Julia, on n'a pas ce sentiment d'être là en disant « Oh, on est vieux, on est de l'époque des cassettes, etc. » En mettant d'ailleurs ces morceaux sur le site, j'avais l'impression de boucler une boucle, tu sais.
Ouais.
On partit maintenant dans une nouvelle boucle avec plein de projets qu'on a tous les deux. Là. Donc, on est comme des jeunes gens qui veulent continuer à servir Dieu jusqu'au bout. Et là, avec de nouvelles choses, on sent que Dieu met de nouveaux projets sur nos cœurs, que ça, tout va devenir de plus en plus clair dans les semaines qui viennent.
Bon, c'est très prometteur. On va encore trois petites questions. En tant que ministère itinérant, toi, Julia et toi, vous êtes souvent sur la route, hein, c'est principalement vous êtes itinérant, à visiter les assemblées, à les encourager, à les exhorter. Voilà, c'est quoi les cinq sujets ou les cinq messages, pas ceux que tu prêches le plus souvent, mais ceux qui sont pour toi vraiment sur ton cœur, qui sont vraiment un fardeau que tu as envie de communiquer?
Oui, c'est un peu un fondement de ce ministère. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la destinée, n'est-ce pas? Ouais. On a déjà commenté. l'identité,
ouais.
Qui je suis en Christ, qui Christ est en moi. Et nous croyons que ça ne suffit pas de connaître Dieu. La priorité, c'est d'apprendre à connaître Dieu, mais il faut connaître aussi qui il est en nous. Parce que le verset d'Éphésiens 3:20, c'est que Dieu, il veut faire des choses formidables, mais par la puissance qui agit en nous. Elle n'agit pas sans nous, elle agit à travers nous. Et pour qu'elle puisse agir à travers nous, eh bien, il faut qu'on soit conscient de notre destinée, de notre identité.
Ouais.
Sinon, on va empêcher cette œuvre de pouvoir s'accomplir à travers nous. Ensuite, eh bien, il y a le couple. On fait plusieurs séminaires sur le couple. On a sorti un livre sur le couple. On aime parler sur ce sujet. Il y a encore deux jours, on faisait une émission radio avec l'île de la Réunion. Et on nous demandait de parler sur ce sujet. Et, nous croyons vraiment que le diable fait beaucoup d'efforts pour détruire les couples parce qu'il sait que, rappelle-toi, le principe « un chasse mine, deux un chasse divine », dans l'unité d'un couple, il a beaucoup à perdre. C'est pour ça qu'on voit que dans cette société, il attaque les couples, il attaque la famille. Et on croit que Dieu, justement, a un message pour les couples chrétiens afin qu'ils découvrent à quel point on peut vivre des choses fantastiques à deux. Quand on apprend à être complémentaire au lieu de se juger et de se critiquer continuellement l'un et l'autre, dont le couple est quelque chose de très important. Hein. Ça a commencé avec Adam et Ève. Hein.
Voilà. Eh oui.
Une église forte est composée de couples forts.
Eh oui, oui.
Il y a aussi la foi, on l'a vu tout à l'heure, et je dirais la foi et le miracle. Il faut que la foi engendre des miracles. Et le miracle, non pas parce que nous voulons encourager les gens à devenir des obsédés du miracle. Oh, Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mm-hmm. Le miracle, on en a besoin. Tu sais, lorsque quelqu'un il a le cancer, ben, s'il n'a pas un miracle, il va mourir. Et la destinée que Dieu a placée sur sa vie va être retranchée. Et donc, le miracle, ce n'est pas une option dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est le Dieu des miracles. Et je dirais aussi qu'avec Julia, si on en est là encore aujourd'hui, la soixantaine passée, a toujours... courir pour servir Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, à de nombreux moments donnés dans notre vie, est intervenu le miracle que s'il n'était pas intervenu, ben, on aurait été arrêté.
Mais oui.
Le miracle, on va encourager les gens à saisir leur miracle. On a donné l'exemple du miracle des guitares.
La guitare. Wow. Ouais.
Et le plus important, c'est, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'importance de marcher dans l'amour.
Ouais.
J'ai développé vraiment plusieurs messages sur l'importance de marcher dans l'amour, de faire en sorte que le thème de l'amour soit une priorité, non pas l'amour cucu, l'amour je t'aime, l'amour du Seigneur, non, pas un amour viril. La Bible dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et que l'amour c'est la nature de Dieu, donc l'amour c'est fort, il y a une puissance dans l'amour. Et donc ces dernières années, vraiment, le Seigneur a insisté là-dessus pour que j'enseigne là-dessus, pour que moi-même, je me passe au crible de mes propres enseignements sur ce sujet, parce que l'amour, c'est le fondement de tout. Aimer sa femme, aimer ses enfants. La Bible nous dit que Dieu veut qu'on soit amené à la repentance en voyant sa bonté, non pas parce qu'on en prend plein la tête tout le temps, loin de là. Des fois, on n'a pas le choix et Dieu va utiliser ça. Mais au départ, Dieu veut qu'on soit poussé à la repentance en voyant sa bonté, l'amour qui nous témoigne. Et donc, il veut aussi qu'on prêche un message de repentance qui n'est pas empreint de culpabilité. On a l'impression parfois que plus on fait se sentir mal les gens, plus ils vont se repentir. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Lorsqu'il y a l'épisode de la pêche miraculeuse et que Pierre se trouve dans la barque avec Jésus, à un moment donné, Jésus, devant cette bénédiction, l'amour de Dieu manifesté par cette pêche qui fait en sorte que même la barque enfonce, hein, on revient à Éphésiens 3:20.
Au-delà.
Et les filets, ils craquent, ils tombent à genoux, quoi.
Ouais, ouais.
Et Jésus, ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne lui fait pas suivre le processus classique de repentance évangélique, et rien contre selon le moment. Hein. Mais il ne lui dit pas, allez, commence à confesser tous tes problèmes, allez, dis que tu es navré de tout ce que tu as fait. Ok, ça peut être selon le contexte, mais non, de suite, il enchaîne. Il lui parle de son identité, de son appel et comment Dieu le voit déjà. Donc, c'est une mentalité qui n'est pas du tout religieuse. Il ne veut pas mettre l'accent sur le péché, il veut mettre l'accent sur le prix que nous avons pour lui, sur l'amour qu'il a pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas regardé les gens en disant « Regarde-moi cette bande d'idiots, il faut faire quelque chose pour eux. » Donc Dieu, il a vraiment aimé les gens. Et il ne faut pas qu'on se trompe de message. Dernièrement, j'ai parlé là-dessus. Parfois, on prêche la repentance qui est un message de culpabilité, un message d'accusation. Et même le mari vis-à-vis de sa femme, il va vouloir la changer et il s'imagine que plus il va la faire se sentir mal ou la femme vis-à-vis de son mari, plus l'autre il va changer facilement. Et c'est pas comme ça. Ça produit le résultat contraire. Mais plus on va apprendre à aimer l'autre, malgré ses défauts, comme Dieu a aimé le monde, malgré qu'il était dans le péché, plus on va apprendre à manifester son amour, plus l'onction de Dieu va être forte dans notre vie et va convaincre les gens qu'ils ont besoin de se repentir. Et je crois que souvent, on prend le message à l'envers. Et donc actuellement, je suis à fond là-dedans, faire comprendre aux gens à quel point Dieu les aime et à quel point cet amour est capable de nous convaincre de changer, non pas parce qu'on est sous une quelconque pression, mais parce que ça nous donne envie de changer.
Eh oui. Hein? Oui, et puis ne sommes-nous pas censés annoncer l'évangile une bonne nouvelle?
C'est une bonne,
bonne nouvelle.
Eh oui. Et voilà, donc actuellement, vraiment, j'insiste et je développe plusieurs messages dans ce sens.
Ouais. Et alors, Claude, le jour où tu apprends que tu as un dernier message ou une prédication à apporter, ce serait quoi?
Ah, j'ai écrit un chant qui s'appelle « Si je devais partir demain ».
C'est très bien d'ailleurs, je vous encourage à l'écouter parce que les paroles sont profondes.
Ah ben écoute, voilà, j'ai déjà donné la réponse. Hein.
On encourage les gens à aller écouter le chant, enfin lire le texte en tout cas qui est mis en chant.
Tu sais, j'imagine un peu Jean, hein, quand il écrit ses épîtres, il a déjà un certain âge.
Ouais.
Il appelle les gens mes petits-enfants, etc. Et il doit se dire, bon voilà, dans l'épître, là, je ne peux pas aborder tous les thèmes, je ne peux pas partir dans tous les sens, c'est pas une épître de 300 pages. Sur quoi je dois parler et insister? Eh ben, il parle de l'amour. Vous devez vous aimer les uns les autres. Si vous passez à côté de ça, tout ce que vous pouvez faire, finalement, ça ne va pas avoir beaucoup de valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, parfois, on fait beaucoup de choses pour Dieu, hein, en passant à côté de l'essentiel. Et dans des cas extrêmes, même la Bible va jusqu'à dire, certains me diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chasser des démons, fait des miracles. Et il ne parle pas de gens qui sont dans l'occultisme, hein. Il parle des gens qu'il a vraiment ouin pour faire ces miracles, prophétiser, chasser des démons. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et quand on voit parfois à quel point, et j'en ai été coupable aussi le premier, on est capable de parler les uns sur les autres, de se dénigrer, de se jalouser. Je crois que Papa Dieu ne doit pas être content avec tout ça et c'est difficile en même temps de lui demander de nous bénir et de nous faire rentrer dans la dimension d'Éphésiens 3.20. Bon, la dimension d'Éphésiens 3.20 est indissociable de rentrer dans une dimension d'amour et de foi plus grande.
Oui, très bien. Et puis la dernière question, c'est quel message tu voudrais dire, communiquer à l'Église pour ceux qui vont nous lire ou ceux qui vont nous écouter?
Ah oui, mais je crois que ce qui travaille beaucoup les gens, et c'est tout à fait normal, c'est comment faire la volonté de Dieu, comment comprendre ce que Dieu veut pour notre vie. Moi, je dirais, n'essayez pas d'être comme l'autre. Acceptez que Dieu a placé un appel particulier sur votre vie. Acceptez que vous êtes spécial, que vous êtes unique, vous n'avez pas besoin d'essayer d'être un autre que qui vous êtes. Découvrez l'appel particulier que Dieu a placé sur votre vie et découvrez aussi la relation particulière que Dieu veut établir avec vous. Ce qui est vrai avec le Seigneur, c'est qu'il a plusieurs enfants, moi j'en ai quatre. Mais je sais que je n'ai pas la même relation avec chacun, ce qui ne signifie en rien que j'en aime un plus que l'autre.
Eh oui.
Non, on peut les aimer exactement pareil, il faut les aimer exactement pareil, mais ils sont différents et donc on est appelé à avoir une relation différente avec les uns et avec les autres. Et c'est ce que Dieu veut et est capable, bien sûr, de faire avec tous ces enfants de par le monde. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit, moi, ma relation avec Dieu, c'est me lever tous les matins à 5 heures. Et ouais, alors, on veut tout casser, on veut faire la même chose. Et nous, il faut nous ramasser à la petite cuillère au bout d'une semaine. Non. Comment est-ce que Dieu veut communiquer avec toi au mieux ? Cherche pas toujours à refaire l'autre. Je me suis rendu compte que d'essayer toujours de refaire les autres, ça nous éloigne de notre propre appel, de notre propre destinée, de notre propre relation avec Dieu. Et Dieu, il est assez grand pour parler à chacun de nous pour ce qu'il veut, qui nous concerne nous particulièrement. Et ce qu'il fera avec nous, ben, ça marchera qu'avec nous et pas pour un autre, de la même façon que d'autres personnes, on les voit faire des choses et ça marche pour eux et ça ne marche pas pour nous. Donc, trouvons cette unicité d'appel et de relation avec Dieu. J'encourage chacun à aller dans ce sens.
En tout cas, merci Claude pour ce temps que tu as consacré. Et puis...
C'est un plaisir avec toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît aussi maintenant. Hein?
Bah écoute, c'est grâce à mon épouse. Toi, vous fonctionnez en couple, vous avez été une bénédiction parce que on se connaît. Moi, je vous connaissais pas avant, mais c'est par mon épouse, on a commencé à se fréquenter et elle avait une cassette, quoi, les fameuses cassettes. Et c'était une copie, c'est pas un original.
Hein?
Et ouais. Donc, nos premiers baisers étaient faits sur, moi et ma maison, nous servirons l'éternel.
D'accord.
C'était une source de bénédiction. Je veux dire que ces paroles sont toujours gravées sur notre cœur. Donc, et c'est ça. Et puis, très vite, on est rentré en contact. Donc, ça fait aujourd'hui 22, 23 ans, ouais. Vous êtes toujours une source de bénédiction, en tout cas. Quand il y a le moyen de transmettre, en tout cas, ces vitamines que tu communiques dans les messages, je m'en prive pas. Et je sais que bon nombre de chrétiens, d'amis et même des gens qui ne sont pas chrétiens, enfin, qui ne sont pas engagés,
ouais,
de te lire, ils comprennent et ça les encourage. On reconnaît un arbre à ses fruits. En tout cas, je reconnais les fruits que toi et j'ai à vous porter. Donc, quand c'est bon, il faut y aller.
Ouais, mais écoute, on a tous besoin de s'encourager les uns les autres.
Et oui.
C'est chaud au cœur.
Voilà. Donc, merci en tout cas pour ce temps.
Ok. Sois richement béni.
Merci.
C'était un très bon moment, ok?
On coupe là, ouais. C'est la coupure.
Voilà, c'est bon, je couperai.
Ok, j'ai pas forcément voulu. Je sais pas après si tu peux rajouter, mais si on demandait peut-être de prier pour les gens, ou ça fait pas, il n'y a pas d'intérêt, ou tu
sais. Ça va. Et on verra ça pour
tout le monde. Oui. Ok, d'accord.
Non, écoute, puis moi, je suis parti de ce que tu m'as lancé, je suis parti des fois dans tes trucs. Et puis, voilà.
Non, c'est bien.
Ok. Comment est-ce que tu fais, toi, tout ça? Tu l'as enregistré, c'est ça?
Moi, je l'ai enregistré. J'ai enregistré la bande son. Donc, voilà. La qualité a l'air bonne.
J'allais dire pour écrire, mais ça.
Okay. Non, je pense pas que je vais faire par écrit. Déjà, Jean-Marc Tobois, je t'ai dit, j'ai passé au moins 8 heures.
Ah, d'accord, ouais.
C'est long, quoi. Mais là, vu que j'ai la bande son, je vais la mettre sur Bibliorama. Il y aura juste un fichier MP3 qu'on peut lire en direct.
La bande son, ben, c'est super.
Et puis, si la vidéo, enfin, la vidéo est exploitable, il n'y a pas de.
Ouais, ben, je vais voir ce que ça donne et voilà, je vais la rentrer dans mon e-movie, là. Puis, s'il y a des endroits où je pense qu'il vaut mieux un peu couper, ou alors,
d'accord.
Je ferai ça, je te la verrai, d'accord?
Ok, super.
Bisous à toute la famille.
Ok, Claude, merci pour ton temps.
Bon week-end, ok? Sois béni.
Allez, ouais. Ciao.
Bye.